Marie-Thérèse Coineau, bonjour.
Bonjour.
Marie-Thérèse Coineau, lutte ouvrière, une militante de longue date ici à Brive. Et là, vous venez, bien sûr, dans le cadre des élections qui vont arriver, régionales, départementales. Alors, une liste lutte ouvrière, ben, ma première question, c'est pourquoi ?
Alors, les listes lutte ouvrière aux élections régionales s'appellent lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs, parce que nous, on pense que les travailleurs, ils doivent s'exprimer tout le temps, mais ils doivent aussi s'exprimer dans les élections, même si c'est pas un bulletin de vote qui va changer fondamentalement notre vie, mais on doit l'utiliser pour faire connaître notre mécontentement, pour dire qu'il faut se préparer pour mener des luttes et avoir un programme pour les travailleurs.
Oui, alors donc, une liste qui est clairement à gauche, mais aujourd'hui, on se demande ce que c'est la gauche. C'est quoi la gauche ? C'est Mélenchon ? C'est le PS ? C'est le PC ? C'est, à votre analyse, la gauche est devenue quoi aujourd'hui ?
Alors écoutez, je pense que la gauche, elle est comme elle est depuis il y a très longtemps, qu'elle gère le système, qu'elle ne remet pas en cause l'organisation économique de cette société, qui est une société d'exploitation. Et nous, on pense que cette société d'exploitation, il faut la changer. Il faut que ce soit les travailleurs qui la dirigent, parce que c'est eux qui font tout fonctionner, en France, mais dans tous les pays. Voilà.
Alors, parler au nom des travailleurs, c'est peut-être une noble cause, mais comment ça s'articule pour passer de la base au sommet ?
Oula, pour passer de la base au sommet, je pense que dans les travailleurs, il n'y a pas vraiment de base, il n'y a pas vraiment de sommet. Qu'on soit éboueur, qu'on soit un agent hospitalier, qu'on soit un enseignant, une caissière, un livreur, un chauffeur routier, etc. Eh bien, on a tous besoin de travailler pour pouvoir vivre. Mais ça, justement, ça nous donne des droits, parce que c'est nous qu'on fait fonctionner tous les secteurs dans la société. Et donc, c'est ceux qui la font fonctionner. Le plus difficile, c'est de la faire fonctionner, la société. Et ça, c'est vu avec la crise sanitaire. Qui c'est qui a permis qu'on puisse aller faire nos courses, qu'il y avait ce qu'il fallait dans les rayons des supermarchés? Quand on a été malade, qui c'est qui nous a soignés? Eh bien, c'est pas le ministre de la Santé, c'est les aides-soignants, les infirmiers, les ASH, et toutes les catégories de personnel qui sont à l'hôpital et nécessaires. Donc, il y a qu'eux qui peuvent diriger cette société et la changer de fond en comble.
Alors cette crise sanitaire, parlons-en, crise d'un système, crise du système capitaliste ou mauvaise réponse du système capitaliste ?
Alors cette crise sanitaire, eh ben, elle a dévoilé, elle a mis à nu les inégalités dans cette société. Parce que c'est vrai que tout le monde peut être contaminé, chaque être humain peut être contaminé, mais ça n'a quand même pas les mêmes conséquences si tous les matins il faut aller s'entasser dans les transports publics, avant d'aller s'entasser sur la chaîne de production, sur un chantier, dans un abattoir, courir partout comme un je sais pas quoi pour pouvoir faire les soins dans un hôpital, regarder si les enfants ils ont bien mis leur masque dans les établissements scolaires, courir pour bien nettoyer tous les locaux, dans les écoles, partout. Vous voyez, ça n'a pas la même incidence. Hein. Et ça n'a pas la même incidence non plus si vous vivez dans un petit logement exigu, où vous êtes 5, 6, 7, que si vous êtes dans une superbe villa avec je ne sais combien de pièces, à deux, un grand jardin, dans un quartier huppé. Le confinement, il n'a pas la même résonance. Et les gamins des familles populaires, eh ben c'était plus difficile pour eux d'être confinés. D'être en distanciel pour leurs cours. Hein. Tout le monde n'a pas un ordinateur à la maison. Tout le monde ne peut pas se payer un abonnement Internet. Voilà.
Alors, cette crise sanitaire, selon vous, elle a mis encore plus en lumière ces inégalités avec des gens qui ont perdu leur travail et d'autres qui ont doublé leur fortune en bourse.
Mais tout à fait. Là, vous avez résumé. Oui, parce que c'est ça, finalement. En 2019, les milliardaires, ils étaient 19. En 2020, ils étaient 42. Et ils ont distribué 39 milliards à leurs actionnaires en pleine pandémie. Ça, c'est choquant. Eh bien, vous savez, avec 39 milliards, on pourra embaucher 1 million de travailleurs, payer 1 800 euros net, charges comprises. On pourrait construire 13 000 écoles et 135, je crois que c'est 135 hôpitaux. Enfin, vous voyez, l'argent quand même qui est volé aux travailleurs sur leur travail, à qui on a demandé de travailler plus, souvent on leur a augmenté leur cadence, on leur a rogné des congés, des RTT. Là maintenant, on leur bloque leur salaire, voire on les baisse. Et il y a eu des centaines de milliers de licenciements dans ces grands groupes-là qui ont été arrosés de quoi qu'il en coûte. C'est des milliards et des milliards qu'ils ont touchés. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils investissent pas, ils embauchent pas, ils licencient un petit SMS, hein, les travailleurs précaires, un petit SMS, à partir d'aujourd'hui, tu fais plus partie de l'entreprise. Et qu'est-ce qu'ils sont devenus, les gens? Plus d'un million qui ont dû aller ça, pour manger aux associations caritatives qui savaient plus comment ils pouvaient faire pour arriver à donner un peu quelque chose aux gens. C'est un scandale dans une société aussi riche.
Alors, selon vous, cette crise sanitaire, on n'y a pas mis les moyens, les vaccins ont trop tardé, on manquait de place en réanimation?
Mais alors, ça, on peut dire que oui, quand même. Depuis 30 ans, les économies qui ont été faites par les différents gouvernements de droite, de gauche, on les a vus tous défiler. Ils ont quand même imposé une... C'est drastique les économies qu'ils ont fait dans les hôpitaux, 100 millions en moins, et les postes en moins aussi. Et là, oui, on a vu avec la crise sanitaire comment ils pouvaient pas accueillir tous les gens, ou alors il fallait décommander des opérations, des interventions, des rendez-vous. Enfin, quand même, il y a plus de 100 000 morts en France. Dans le monde entier, c'est plus de 3 millions, et c'est pas fini. Et ça, c'est sans compter les décès qui sont liés justement à la déprogrammation d'interventions, de rendez-vous, tout ça. Oui, bien sûr que l'argent, il est pas mis où il faut. Il est jamais mis dans les services utiles à la population. On n'a pas embauché dans les hôpitaux, on n'a pas embauché dans les écoles, on n'a embauché dans aucun service utile à la population. Par contre, on a arrosé par milliards les grandes familles, les gros actionnaires de l'automobile, de l'aéronautique. On leur a payé les salaires des travailleurs avec le chômage partiel. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, ils ont licencié. Ils ont spéculé. Et ça nous amène dans le mur. Ça va provoquer un krach financier.
Alors, crise économique, dites-vous, qui suit cette crise sanitaire, vous la dénoncez, mais selon vous, les moyens d'éviter cette crise économique ?
Alors, sur la crise sanitaire, j'ai oublié de dire quand même, je souhaite le dire, que quand même, ils nous ont baladés. Les masques ne faisaient pas besoin, on ne saurait pas les mettre. Mais il n'y en avait pas, des masques. Voilà, c'est scandaleux, franchement. Les tests, ça a été pareil. Les vaccins, ça a été pareil. Les vaccins, il y a des chercheurs, il y a des techniciens dans les laboratoires pharmaceutiques. Ils ont trouvé des vaccins. Rapidement, d'ailleurs, parce qu'ils ont bossé, eux. Et qu'est-ce qu'ils font, les actionnaires? Eh bien, ils fabriquent ce qu'ils veulent. Ils nous le vendent au prix où ils veulent. Eh bien, il faudrait les contraindre. Une société qui serait responsable, elle les contraindrait à fabriquer, à ce que leurs brevets soient publics, que tous les laboratoires pharmaceutiques puissent... fabriquer des vaccins et vacciner toute la population, mais à l'échelle du monde, parce que pour se sortir de la pandémie, il faut vacciner la population mondiale, bien évidemment. Eh bien ça, justement, ils le feront pas. Ils ont envoyé des soignants soigner les malades sans munitions, et maintenant, ils obligent pas les laboratoires pharmaceutiques à fabriquer les vaccins. Il faudrait les exproprier et les mettre sous le contrôle des travailleurs de ces entreprises de vaccins. C'est la seule solution qui serait efficace.
Donc, votre solution économique, c'est la nationalisation.
C'est pas la nationalisation, parce que vous savez, les nationalisations, on les paye et après, on les leur rend, leurs entreprises, souvent. C'est scandaleux, ça. Non, c'est l'expropriation, les mettre sous le contrôle des travailleurs, aussi bien pour les comptes que pour la fabrication, de qu'est-ce qu'il faut, planifier ce qu'il faut, justement. Hein, le vaccin, il faudrait planifier le nombre de vaccins qu'il faut pour que toute la population puisse en bénéficier.
J'en reviens aux élections qui vont arriver et à votre à la liste qui est soutenue, donc qui est présentée par Lutte Ouvrière. Alors là, je vois que vous êtes venu avec un tract de campagne. J'y vois la photographie de Nathalie Arthaud et d'Arlette Laguiller derrière, deux figures du mouvement. Ici, qui représentera Lutte Ouvrière?
Alors moi je suis la tête de liste de la section départementale de la Corrèze. Et le tête de liste de toute la région, c'est Guillaume Percher, qui est de Bordeaux, qui est informaticien. Sur nos listes, il n'y a que des travailleurs, des chômeurs ou des retraités du monde du travail. Il n'y a pas de grands bourgeois, vous n'en trouverez pas.
Alors, vous, Marie-Thérèse Coineau, pour la Corrèze, et Guillaume Percher pour la région Nouvelle-Aquitaine.
Voilà, c'est ça.
C'est ça. Et comment se passe la campagne ? Est-ce qu'on vous écoute sur les places et les marchés ? Est-ce que lutte ouvrière, ça parle aux gens ?
Alors, écoutez, je crois que la population, elle se rend compte de ce qui se passe, que le chômage augmente. Qu'est-ce qu'on propose ? Eh bien, une réforme du chômage, où les chômeurs, ils auront moins de droits, ils toucheront encore moins d'allocations de chômage, où ils auront plus de quoi vivre du tout. Et là, ils ont de quoi survivre, mais ils auront quasiment plus rien. Ça, c'est aberrant. Nous, on dit que contre le chômage, il faut répartir le travail entre tous, sans perte de salaire. C'est la seule solution pour qu'il y ait un avenir pour la jeunesse et pour les moins jeunes aussi qui n'ont pas de travail. Eh bien ça, quand on en parle, les gens, ils comprennent. Parce qu'ils voient bien qu'on augmente leur cadence dans les entreprises. Parce qu'il faut que ça, il faut que la production, elle sorte quand même, hein. Voilà. Il y a plein d'emplois qu'on pourrait créer dans les écoles, dans les hôpitaux, et des emplois indispensables. C'est pas des emplois pour que les gens, pour rien, c'est des emplois indispensables. Et pour les conditions de travail des personnes, et pour la population.
Eh bien, Marie-Thérèse Coineau, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle, vous serez à la tête de la liste pour la Corrèze, pour ces prochaines élections. Merci à vous, et puis bonne campagne.
Merci.